Et j'enchaîne donc avec la deuxième partie. Maintenant que vous avez conservé le droit de diffuser votre article en libre accès, comment est-ce que vous pouvez faire? Quels sont les différents canaux de diffusion que vous pouvez utiliser? Et qui vous permettront d'augmenter l'impact de vos publications. Donc il y a deux voies possibles. Déposer vos articles dans une archive ouverte. Donc on va voir qu'est-ce que c'est qu'une archive ouverte, les différents types de documents qu'on peut y déposer et dans quelle version. Qu'est-ce que c'est que diffusion, donc le dépôt institutionnel de l'ULB. Quelques exemples d'archives ouvertes dans certaines disciplines. Et on va voir aussi quelle est l'accessibilité de ces archives ouvertes et comment est-ce qu'elles sont indexées, comment est-ce qu'on peut y faire des recherches. La deuxième voie possible, c'est de publier votre article directement dans une revue open access ou en open access. Donc il y a des éditeurs traditionnels qui vous donnent une option, une possibilité de publier en open access, et il y a des revues qui sont entièrement disponibles en open access. Donc on va voir tout ça maintenant. Donc qu'est-ce que c'est que on appelle une archive ouverte, donc archive ou repository en anglais. C'est un dépôt, un réservoir de documents et de données qui sont issus de la recherche scientifique et de l'enseignement. Alors, ouverte, ça veut dire l'accès est ouvert au contenu de cette archive. Il n'y a pas de barrière, ni technique, ni économique, ni juridique. Le principe des archives, en général, c'est que c'est l'auteur qui archive lui-même ses documents sur un serveur. L'objectif, évidemment, ce n'est pas d'avoir accès uniquement à la référence bibliographique, mais au texte complet, et donc de déposer le document en texte complet dans cette archive. Les archives sont interopérables. Donc le principe même de l'archive ouverte, c'est de respecter un protocole de communication qui fait que l'ensemble des archives ouvertes peuvent être indexées et recherchées par des moteurs de recherche d'archives ouvertes que je vous présenterai. Quelle version de document dépose-t-on dans des archives ouvertes? En général, ce qu'on veut. On peut déposer le préprint, donc c'est le manuscrit qui est soumis pour publication avant toute révision. Le postprint, c'est les termes un peu utilisés dans la littérature scientifique. Le postprint, le manuscrit final, qui a été révisé par les pairs dans le cadre de la soumission pour publication, mais qui est votre manuscrit final, qui n'est pas la version PDF de l'éditeur telle qu'elle est publiée dans la revue. Ça, c'est ce qu'on appelle le pubprint, la version de l'éditeur, le PDF de l'éditeur. Ça, c'est plus rare de pouvoir le déposer dans une archive ouverte. Ce sont en général plutôt les éditeurs open access qui l'autorisent. Et alors l'e-print, ça c'est le terme général pour un manuscrit qu'ils n'ont publié. Quel type de document peut-on déposer dans les archives? Aussi, de nouveau, un peu de tout. Les articles scientifiques, les documents numérisés, des thèses de doctorat, des rapports, des études, des actes de colloque, des contributions à des colloques, des cours, des ouvrages, des notices bibliographiques ou des documents multimédia. Donc là, ça dépend des archives. Il y en a qui acceptent un certain type de publication, de travaux, et d'autres qui sont ouverts à tout type. Je vais maintenant m'attarder un petit peu sur le dépôt institutionnel de l'ULB, donc qui s'appelle Diffusion. C'est l'outil de référencement à la production scientifique de l'ULB. Donc l'objectif, c'est vraiment qu'on y trouve la bibliographie académique de toute l'université, donc l'ensemble des publications et des travaux des chercheurs et des enseignants de l'université. Et non seulement les références bibliographiques, mais également les textes complets. Donc c'est un outil bibliographique et d'archivage des publications des membres du personnel de l'université. Non seulement on voudrait bien pouvoir archiver ces publications pour l'institution, mais c'est aussi un outil d'archivage personnel pour vous. Donc vous pouvez déposer les documents que vous souhaitez dans l'état où ils sont, en version quelle que soit la version, en plusieurs versions. Vous pouvez déposer vos données de recherche. Tout ça est archivé, il y a des backups, il y a une sécurité. Vous pouvez y donner accès uniquement à vous-même, il n'y a que vous qui voyez ce qu'il y a. Ou vous pouvez donner accès à la communauté universitaire ULB ou au monde entier sur Internet. C'est vous qui décidez l'accès que vous donnez à ce que vous déposez. Ce qui est très pratique, c'est que c'est secure, disponible, accessible où que vous soyez. Même si vous n'avez pas votre ordinateur, vous pouvez avoir accès à vos publications, à vos travaux, à vos données. Mais le but, c'est aussi évidemment d'élargir l'accès au maximum sur Internet et donc de donner l'accès public aux textes et aux publications des chercheurs de l'ULB immédiatement ou après le délai imposé par l'éditeur, comme on l'a vu. Donc, cette diffusion est ouverte depuis le 9 septembre 2009. Alors, comment est-ce que le dépôt institutionnel est rempli? Donc, pour le moment, il contient plus de 80 000 références. Les chercheurs peuvent bénéficier du soutien des bibliothèques pour l'encodage de leur liste de publications. Jusqu'à présent, donc, nous avons encodé aux bibliothèques 997 listes, mais une liste de publications peut contenir plusieurs centaines de références bibliographiques, selon où on se trouve dans la carrière de l'enseignant ou du chercheur. Par contre, les textes sont les chercheurs qui doivent aller les déposer. Donc, c'est très important de déposer un maximum de textes avec une ouverture la plus large possible, comme vous l'avez compris. L'objectif du recteur, c'est d'avoir une couverture complète de la bibliographie académique pour la rentrée académique prochaine. Donc, cette année, les bibliothèques sont très fort sollicitées pour encoder les listes de publications. À partir de la rentrée académique, chaque auteur sera tenu de mettre à jour sa liste dans Diffusion. Par la suite, le recteur envisage donc de se baser uniquement sur les références qui sont présentes dans Diffusion pour toute demande de promotion ou de subside à l'université. Donc, dans Diffusion, nous offrons un certain nombre de services pour les utilisateurs, pour les chercheurs, donc des facilités d'encodage, donc par exemple l'importation semi-automatique des références bibliographiques depuis des bases de données connues, donc PubMed pour tout ce qui est sciences biomédicales. Donc il y a un petit bouton ici, voilà, importer de PubMed et avec son nom, on encode son nom, on peut importer automatiquement les références bibliographiques et on les valide, parce qu'il y a toujours des problèmes possibles d'homonymie, quelqu'un qui porte même nom que vous, mais ce n'est pas vous qui avez publié, donc vous devez valider les références. On a le même système avec Scopus, qui est donc aussi une base de données de références bibliographiques très importante. On a aussi la possibilité d'importer des références bibliographiques à partir de fichiers BibTeX. Donc pour chacun qui est présent dans Diffusion, chaque auteur de l'ULB, il y a possibilité de sortir sa liste de publications sous différents formats, PDF, RTF, CSV, RIS, et en sélectionnant certains critères, donc un intervalle de date, de publication, un rôle, donc je voudrais sortir tout ce qui est référencé dans Diffusion en tant qu'auteur ou en tant qu'éditeur scientifique, par exemple, promoteur de thèse, etc. Et vous pouvez choisir d'y indiquer ou non des liens vers le texte complet ou les résumés. Voilà ce que ça donne. Donc à côté du nom de la personne, vous avez une petite icône de personnage. Vous cliquez dessus. Vous avez une petite fenêtre de dialogue qui vous demande quel format de fichier vous voulez, les années concernées en tant qu'auteur, éditeur, etc. Vous voulez le lien vers le full texte ou pas, et voilà, ça vous sort votre petite liste de publications, triée comme vous l'avez souhaité. Donc inutile de maintenir votre liste à côté sur votre PC, mettez tout dans Diffusion, c'est beaucoup plus facile. Deuxième possibilité, l'extraction au format XML. D'un ensemble de publications aussi. Donc là, pour le moment, c'est un projet pilote avec la faculté de philo et lettres, et les publications apparaissent dans le Who's Who. Je crois que ce sont les cinq publication favorite de la personne. Donc voilà le rouge de Philo et Lettres. Sur, à partir du nom d'une personne, vous avez donc ces dernières publications qui sont affichées, et c'est une information qui vient en direct de diffusion. Donc si diffusion est bien à jour, ça apparaîtra aussi, ce sera aussi à jour sur le site web de la faculté. Vous pouvez faire la même chose pour votre centre de recherche, etc. Autre possibilité, autre service dans Diffusion, c'est la possibilité d'avoir des statistiques de téléchargement des fichiers que vous avez déposés dans Diffusion. Et enfin, on a aussi un système qui alimente automatiquement l'archive disciplinaire RIPEC. Donc, c'est une archive très importante en économie. Donc, toutes les publications en économie qui sont dans Diffusion sont automatiquement transférées également. Les références bibliographiques sont transférées vers la base de données RIPEC, ce qui fait qu'il est inutile d'encoder deux fois, on encode une fois dans Diffusion, et c'est visible également dans une base de données internationale disciplinaire. Voilà, alors là, c'était la présentation du dépôt institutionnel de l'ULB. Il y a aussi un dépôt à l'ULG. Et un dépôt à l'Académie de Louvain. Donc, rapidement, d'autres archives ouvertes. Ben, dans certains pays, on a des archives à un niveau national. Ce n'est pas encore le cas en Belgique, mais je ne sais pas si ça le sera un jour. Donc, en France, aux Pays-Bas, il y a un portail d'accès à l'ensemble des archives scientifiques du pays. Il y a des archives disciplinaires, donc en sciences exactes, archives, en médecine et sciences biomédicales, PubMed Central, c'est la plus importante, sciences de l'information, encore en sciences de l'information, en économie, RIPEC, sans doute que dans vos disciplines, vous connaissez des archives, et en psychologie, CodePrimis. Alors, comment trouver des archives ouvertes? Il existe un annuaire qui s'appelle OpenDoor, Directory of Open Access Repositories. Vous pouvez y faire une recherche par sujet, ou par langue, ou par... université, si vous voulez voir si l'université a une archive institutionnelle. Il était également possible de faire une recherche dans ces archives, dans les références qui sont stockées dans ces archives. Comme je vous disais, les archives ouvertes sont interopérables et il y a des plateformes qui permettent de faire une recherche dans l'ensemble de ces archives, donc notamment Oyster. Donc, ce sont des moteurs qui vont chercher l'information. Donc, dans ce cas-ci, dans plus de 25 millions de notices, donc de références bibliographiques, c'est une plateforme qui recherche dans plus de 1100 archives ouvertes. Un autre exemple est Scientific Commons. Là aussi, 30 millions de publications réparties sur 1200 archives. Donc, une seule interface, la recherche dans énormément d'archives ouvertes. Et il y a bien sûr Google Scholar que vous connaissez, mais là, on ne sait pas toujours très bien ce que Google Index, donc on ne sait pas toujours qu'est-ce qui est repris derrière ce moteur de recherche. Deuxième possibilité, donc la première possibilité est déposer votre article qui est publié par ailleurs ou non publié dans une archive ouverte. Deuxième possibilité, publié directement dans une archive, dans une revue, en open access. Une revue open access, c'est une revue scientifique comme les autres, mais simplement elle est basée sur un autre modèle économique. C'est une revue qui a un système de peer review, donc qui garantit la qualité des articles scientifiques. Et ce sont des revues qui ont aussi un facteur d'impact qui peut être élevé, tout comme les autres. L'exemple, c'est PLOS Biologie, qui a le facteur d'impact le plus élevé dans sa catégorie. Un autre modèle économique, ça veut dire qu'au lieu que ce soit le lecteur qui paye pour pouvoir lire l'article, la revue utilise d'autres moyens pour financer les frais de publication. Ça peut être l'auteur qui paye pour avoir son article publié, mais ça peut aussi être une institution qui diffuse une revue et qui prend en charge les frais de publication. Ou ça peut être un tout autre modèle économique, ça peut être basé sur la publicité, ou ça peut être une combinaison de plusieurs solutions. Alors, il y a des éditeurs qu'on dit traditionnels, donc qui en général font payer pour avoir accès à l'article, qui proposent une option open access. De plus en plus d'ailleurs, Elsevier, Springer, OID, Oxford University Press, Cambridge University Press, Institute of Physics, ce sont tous des éditeurs très importants, un grand nombre de revues, qui ont cette option open access. Donc, ce qui se passe, c'est que votre article passe tout le processus habituel de révision, etc. Une fois qu'il est accepté pour publication, on vous demande si vous voulez le publier en open access. Et dans ce cas-là, vous payez les frais de publication. Alors les frais, ça dépend de la revue et de l'éditeur. Et ça peut varier entre 500 et 2000 euros par article. Votre article, ben, il apparaît, il est librement accessible, gratuitement accessible à tout le monde, mais dans une revue électronique dont le reste des articles ne sont pas accessibles gratuitement. Donc, mon opinion personnelle, c'est que ce n'est pas un modèle que je soutiens, parce que en fait, on paye deux fois. Nous, aux bibliothèques, on continue à acheter l'abonnement pour pouvoir permettre aux chercheurs de lire tous les articles, et l'institution paye la publication d'un article pour qu'il soit accessible à tout le monde, alors que le prix de la revue ne diminue pas. Si le prix de la revue diminue en fonction du nombre d'articles disponibles en open access, d'accord. Mais autrement, c'est deux sources de revenus pour exactement la même chose. Donc je n'encourage pas ce genre de pratique, moi personnellement. Deuxième possibilité, des revues entièrement en libre accès, donc qui reposent sur un tout autre modèle économique. Il existe un annuaire en ligne des revues scientifiques en open access, qui est le DOAJ, Directory of Open Access Journals. Donc, maintenant, on retrouve dans cet annuaire plus de 7000 revues, entièrement, dont les textes sont complets sont entièrement gratuits. Donc, on ne trouve pas là-dedans des revues hybrides à moitié open access et à moitié pas open access, qui sont publiées par des éditeurs aussi bien commerciaux que non commerciaux. Donc, il y a des éditeurs commerciaux qui font de l'open access et ça marche très bien. Et c'est un annuaire tout à fait multidisciplinaire, donc vous trouverez des revues dans tous les domaines. OpenGigate est une autre plateforme qui recense également des revues en open access. Et alors on a des éditeurs des agrégateurs comme revue.org qui soutiennent les revues en sciences humaines en open access. Indawi, un éditeur qui fait que de l'open access, un éditeur commercial, qui publie aussi plus de 300 revues. Et Biomed Central, dans les sciences biomédicales, aussi 220 revues entièrement en open access. Voilà, pour résumer, plusieurs voies de diffusion possibles de vos articles en open access. Les archives ouvertes, premier choix, diffusion à l'ULB, ce qui ne vous empêche pas après de aussi déposer dans des archives disciplinaires si vous le souhaitez. Pour identifier des archives ouvertes, le portail OpenDoor. Pour rechercher des articles scientifiques dans des archives ouvertes, donc si nous ne sommes pas abonnés à toutes les revues, parce que c'est effectivement tout à fait impossible, le budget qu'on y consacre déjà, il y a des tas de revues auxquelles on ne peut pas s'abonner. Vous pouvez toujours voir si l'article qui vous intéresse n'est pas disponible en open access dans une archive ouverte, institutionnelle ou disciplinaire. Vous faites une recherche dans Oyster ou dans Scientific Commons, par exemple. Pour trouver des revues en libre accès dans lesquelles vous aimeriez publier ou consulter, il y a le répertoire DOAJ qui est le plus simple. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Maintenant, nous avons du temps pour des questions.
L'ensemble des intervenants de cet après-midi, en français ou en anglais?
Oui, encore une petite info. On a un petit dépliant en diffusion qui vous explique tout sur le dépôt institutionnel qui est disponible sur le petit chariot à la sortie. Et on a également mis à votre disposition une publication open access qui est publiée par la Commission européenne et qui explique bien tous les enjeux de l'open access et pourquoi c'est important d'y contribuer.